Qu'est-ce qui fait 2, 3, 4, 5, 6 au début du générique? La voix d'enfant, c'est génial, moi j'adore. Ça me reste dans la tête toujours cette petite ritournelle.
Bonsoir à tous, c'est avec la voix de Mobius qu'on ouvre cette émission. C'est le rendez-vous saison 4 déjà et ce soir deux plateaux pour des invités liés par une certaine idée du mal-aimé. 19h10, plateau biopic avec Florent Emilio Siri qui signe Clo-Clo ou le parcours d'un artiste qui transcende sa condition sociale et donne à la télévision française des années 70 l'énergie sexuelle des shows américains. Benoît Lagan.
Bref, un artiste électrique à l'image du film de Florent Emilio Siri, un film qui transcende notamment l'esthétique télévisuelle de ces années-là.
19h25, le questionnaire du lundi de Manu Farine pour l'invité qu'elle rencontre le week-end. Aujourd'hui, ce sera Yves-Noël Genot. 19h30, plateau autobiographique avec Pierre Lescure qui publie In the Baba. Retour sur la carrière de celui qui aura été identifié à l'esprit Canal+, avant de devenir aujourd'hui l'un des réconciliateurs du théâtre public et privé. J'ai voulu faire un seul mot, j'y suis pas arrivé. Benoît Lagan.
Et avec In the Baba, Lescure signe autant son portrait que celui de médias en pleine révolution et en particulier d'une radio et d'une télévision post-68arde sous influence américaine.
19h45, la session sera piano avec Anna Aaron. La programmation, signé Mathieu Conquet.
Piano et animal avec Anna Aaron. La Suissesse chantera en direct une des chansons de son Dogs in Spirit.
Mais tout d'abord, on ouvre avec l'actualité culturelle. Journal de la culture, ce sera le dossier international de Xavier et les brèves de Benoît. Mais avant de les retrouver, retour sur la voie du dessinateur Jean Giraud, alias Moebius, disparu ce week-end. Alors on se souvient ici de son passage au rendez-vous, c'était au Festival d'Angoulême l'année dernière. On l'écoute une dernière fois évoquer son rapport à la figure des justiciers qui sont au centre de son œuvre et plus largement à l'autorité.
En ce qui concerne les rapports avec l'ordre, c'est vrai que quand nous avons fondé Métal Hurlant, le but c'était de briser un certain ordre. C'était simplement que la bande dessinée était dans l'enfance et comme tout enfant, elle était sous autorité parentale. Mais derrière les parents, il y avait l'autorité de l'éducation nationale. Et derrière le bras armé de l'éducation nationale, c'était le 36 Quai des Orfèvres. Bon, ça fait des bons films, des bons polars, mais quand on est convoqué et qu'on nous dit qu'on est interdit à l'affichage, c'est beaucoup moins drôle, vous voyez.
Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Alors direction la Suisse pour ce dossier où c'est le livre qui était au cœur des débats politiques du week-end avec ce référendum sur l'instauration d'un prix unique. C'est donc un non à 56%, mais dans le détail, il y a quand même un clivage très net entre la Suisse germanophone et la Suisse francophone.
Et oui, parce que rappelez-vous, c'était favorable dans cette Suisse romande qui tentait depuis l'année dernière, on en avait parlé, de sauver son tissu de librairie réduit d'un quart depuis 10 ans. Alors la loi sur le modèle français aurait peut-être permis de freiner la hausse des prix d'achat auprès des fournisseurs, mais plus sans doute dans une Suisse romande francophone, donc avec 150 librairies différentes et plutôt indépendantes, que dans une Suisse alémanique, dominée, elle, par un grand groupe de distribution qui importe en gros et parvient ainsi à obtenir des tarifs préférentiels pour ses lecteurs. Différence de structure du marché, certes, mais oublie de l'enjeu du débat, la diversité éditoriale, et c'est le regret du responsable pour la Suisse romande de l'Association Suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires, Jacques Scherer.
Les Suisses allemands ont craint que la loi, en fait, ne finisse par renchérir le prix du livre. Parce que l'erreur que nous avons toujours, bien entendu, c'est de regarder vers ce qui est le plus visible, c'est-à-dire les 3% de livres qui sont des best-sellers, donc ces fameux titres d'appel, où là, effectivement, la libéralisation du marché a fait que le prix de ces livres, le dernier Harry Potter, ou un Levin, ou un Dan Brown, se vendent meilleur marché que le prix conseillé, mais en revanche, le reste de la production, et qui donc est le gros de la production, a tendance à renchérir.
Une erreur, dit Jacques Scherer, peut-être, mais c'est quand même bien la structure qui compte dans un pays qui importe majoritairement.
Et oui, parce que c'est une structure qui dépend, elle, de la géographie, c'est-à-dire du voisin. Parce qu'en Suisse alémanique, donc un seul groupe domine la distribution, avec la chaîne Ex Libris, une sorte de Fnac et une bibliothèque quasi universelle sur Internet. Mais donc, il n'y a pas de concurrence et pas de différence importante des prix du livre par rapport au voisin, l'Allemagne, toute proche pour la clientèle, apparemment à matrice de best-seller. De là, le succès sans doute du nom dans ces cantons, alors qu'en Suisse romande, Ex Libris est absent et le marché qui se fait avec la France est plus varié, mais les libraires qui restent encore se fournissent chez des intermédiaires, alors OLF ou Diffulivre ou alors Dargo, qui eux fixent seuls les prix. Et ces intermédiaires, les prix qui sont fixés par ces intermédiaires sont 30 à 40% plus chers qu'en France cette fois. Et certains même en profiteraient, nous explique Carlos de la librairie du Boulevard à Genève, la plus grande librairie associative de Suisse et la première indépendante.
c'est donc des diffuseurs, donc ils achètent auprès des grands groupes éditoriaux français. Un groupe comme Diffulivre appartient à Hachette. Depuis l'été 2011, il y a eu une baisse de l'euro très importante et très rapidement, les prix étaient 30, 40, 50% plus chers. Donc les distributeurs ont tenu compte de ce phénomène et ont répercuté la baisse de la tabelle. Certains l'ont fait très rapidement et d'autres très difficilement, on va dire, voire pas du tout.
Oui, vous aurez compris, la tabelle, c'est la grille des prix. Une enquête de la Commission à la concurrence est d'ailleurs en cours pour savoir s'il y a eu abus de position dominante de la part des diffuseurs français, à propos desquels, un signe peut-être, on apprenait justement la semaine dernière que Hachette se séparait de sa célèbre librairie Payot à Genève, une librairie qu'il avait rachetée en 1992, juste avant donc la libéralisation du marché.
Merci Xavier, on se retrouve demain pour un nouveau dossier. Du côté des brèves de Benoît, ça donne quoi ?
Actualité du livre toujours, mais du côté des prix littéraires, Laurent, puisque le prix des libraires vient d'être remis il y a quelques minutes à peine à l'hôtel Madisson, boulevard Saint-Germain, et après avoir récompensé par le passé Patrick Modiano, Laurent Godet ou encore Delphine de Vigan, le prix des libraires, fondé en 1955 par des libraires indépendants de France, de Suisse et de Belgique, vient donc d'être remis cette année à Virginie Delofre pour son premier roman « Léna », paru chez Albin Michel en septembre dernier.
Du boulevard Saint-Germain à Montmartre.
Oui, le conseil municipal du 18e arrondissement de Paris doit voter ce soir un nouvel arrêté pour un nouveau règlement et gestion des artistes de la place du Tertre à Montmartre. Ce nouveau règlement, qui avait déjà été revu en juillet 2010, a pour but de mieux encadrer l'activité des artistes et de lutter contre la venue des caricaturistes dits à la sauvette et surtout à lutter contre la contrefaçon de tableaux.
De la mairie de Paris à celle de Florence.
À l'occasion d'une conférence de presse à la mairie de Florence, une équipe de chercheurs vient d'annoncer ce matin avoir trouvé une fresque inachevée de Léonard de Vinci dans une des principales salles du Palazzo Vecchio, la mairie de Florence. Munis de micro-caméras et de sondes, les chercheurs ont été amenés à percer des trous à travers une fresque de Giorgio Vasari, derrière laquelle ils auraient, ont-ils déclaré, avoir trouvé des traces d'une peinture noire de la même nature que celle utilisée pour la Joconde.
Et pour terminer, la petite histoire du jour.
Une histoire de télé-réalité. Savez-vous, Laurent, qui après Manu Katché de La Nouvelle Star et Louis Bertignac dans The Voice, qui va se lancer dans la télé-réalité musicale en Allemagne ?
Nina Hagen ?
Non, le cinéaste Volker Schlondorf. Parce que ce dernier va mettre en scène Carmen l'été prochain à Berlin et il part en effet à la recherche de nouvelles stars lyriques dans le but de trouver de nouvelles voix pour les quatre principaux rôles de l'opéra de Georges Bizet. Si l'on en croit la direction d'Arte Allemagne, coproductrice de l'émission avec la télévision publique ZDF, Open Opera, c'est le nom de l'émission, sera l'occasion de montrer la préparation et la mise en œuvre du projet. Alors si vous souhaitez passer le casting, Laurent, c'est possible. Cette émission de télévision de 6 fois 90 minutes partira à la recherche d'artistes originaires d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche et de France. Une seule requête, espérant que le sens de l'humour du ténor américain David Librever, qui sera l'un des membres du jury, ne ressemble pas à celui d'André Manoukian.
Il est formidable, André Manoukian. On n'a pas encore invité. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos invités, Florent Emilio Siri ?
Moi, j'avais été très marqué par le tambour de Volker Schlondorf. Ça m'avait vraiment marqué, cet enfant qui arrivait avec cette voix. Non, c'est vraiment, je me rappelle, j'ai un souvenir très ému de ce film. Mais je connais en fait mal son cinéma depuis. En fait, je ne sais pas ce qu'il a fait dernièrement.
Eh bien, le prochain, ce sera de la télé-réalité, voilà. Donc, pour se dire au courant, même s'il y a un grand vide entre le temps.
Et puis, il y aura un film sur Arte, un téléfilm bientôt sur Arte, sur la figure de Guy Moquet.
D'accord.
Réalisé par lui. Pierre Lescure.
Oh, je reviens à Mobius parce que, d'abord, j'adorais sa voix, vous nous l'avez redonnée. Et puis, j'adorais son visage. C'est un très, très, très beau visage. Regardez les photos qui sont sorties depuis 36, 48 heures. Et puis c'était un homme, ça paraît d'une banalité, pardon, mais vous le savez puisque vous l'avez reçu ici. Il y a une humanité palpable, il y a quelque chose un regard extrêmement calme sur ces personnages, même quand ils sont jamais violents, ils sont forts, ils sont vertébrés, même quand ils sont tourmentés. Et puis il y a ce dessin, évidemment les grands caractères qu'on connaît, mais aussi il a donné à toute une génération, la mienne et puis toutes celles qu'on suivit. Ça fait beaucoup, il a donné le goût de la fresque, du dessin, y compris du dessin surréaliste et de la colorisation. C'est considérable, l'œuvre de Mobius, je pense, de Giraud.
19-20, le rendez-vous.
Rendez-vous.
C'est sur France Culture.
Plateau biopic avec vous, Florent Emilio Siri, réalisateur. Vous signez Clo-Clo, cinquième long métrage après des films d'action et de guerre. On se souvient notamment d'Ennemis intimes avec Benoît Magimel, encore Benoît Magimel, qui vous suit de ce film en film. C'était sur la guerre d'Algérie. Juste une question d'ailleurs à ce propos, puisque l'on commémore cette semaine les accords d'Évian, que d'ailleurs vendredi prochain il y aura un 24 heures Alger sur France Culture. On commémore donc la fin de la guerre le 18 mars 62. Quelle a été la réaction du côté algérien à votre film ?
Alors, on a fait une avant-première à Alger, on y a tenu beaucoup avec Benoît Magimel. On est retourné là-bas, on a invité tout le... Puisque le casting kabyle s'est fait en Algérie, même si j'ai tourné au Maroc. Ça a été mitigé, c'est-à-dire que du côté de la jeunesse, ça leur parlait beaucoup, mais il y a quand même encore... c'est encore délicat comme sujet. Alors je me rappelle qu'il y avait une jeune femme du FLN qui défendait le film, qui trouvait que le film était assez juste, mais c'est difficile... Ce qui était difficile, c'est de dire qu'il y a eu des exactions des deux côtés. Pour eux, c'est souvent que d'un côté, donc du côté français. Donc c'était beaucoup plus sensible qu'en France par rapport à la sortie de L'Ennemi intime, qui est quand même, qui est sortie. Mais en fait, tout le monde s'en foutait un peu de reparler de la guerre d'Algérie, je dois le dire. Parce que pourtant, nous, on avait fait un gros travail avec Patrick Rothman.
500 000 spectateurs quand même.
Oui, c'est bien, mais on espérait quand même un peu plus. Ouais, on espérait en tout cas les jeunes. Parce que ce qu'on avait fait, on avait, avec le ministère de l'Éducation nationale, on avait fait passer des fascicules dans toutes les écoles à tous les professeurs d'histoire, pour qu'ils encouragent leurs élèves à aller voir ce film. Non pas qu'on voulait faire des milliers d'entrées, mais je pense que c'était un film nécessaire. Donc voilà. Mais ça n'a pas eu lieu, en fait. Voilà. C'est comme si, même ils confondaient la Deuxième Guerre mondiale avec la guerre d'Algérie. Moi, je sais qu'étudiant, enfin, quand j'étais au collège, ça n'existait presque pas. Hein. C'est quatre lignes, les guerres de décolonisation dans nos livres, ce qui est bien dommage. Donc finalement, là, on a réussi à évacuer un pan de notre histoire, enfin, du côté de la jeunesse.
Benoît Lagan.
Oui, Pierre Lescure, vous n'avez pas fait la guerre d'Algérie, vous écrivez dans le livre, et contrairement à d'autres de votre génération, vous avez été réformé, vous expliquez également pourquoi. Comment avez-vous vécu cette période dans une famille qui était plutôt contre ce conflit et pour l'indépendance algérienne ?
Dans tous les débats familiaux et autour de la famille, bien sûr, parce que c'était assez mal vu à l'époque d'être contre la guerre d'Algérie. Et je me souviens de grands débats, parce que c'était la limite... de la lutte contre la guerre d'Algérie et la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, la limite, c'était ce qu'on appelait les porteurs de valises. Les Français qui ont été, qui ont glané de l'argent et qui sont allés, les réseaux Janson qui ont fait porter de l'argent jusqu'au FLN. Et ça, c'était la limite dans ma famille. On disait non, on ne peut pas aller jusque-là parce que c'est donner de l'argent à des soldats, ou en tout cas des soldats, des indépendantistes qui vont tirer sur des soldats français qui ne sont là souvent que forcés.
Alors aujourd'hui, retour à Clo-Clo, le biopic de Claude François, sans rapport, quoique en fait. Le film sort mercredi au cinéma, un film où il est d'ailleurs question du retour des Français d'Afrique du Nord, puisque la famille franco-italienne de Claude François quitte l'Égypte au moment de la crise autour du canal de Suez en 1956. Et on sait ce que ça va avoir de déterminant plus tard dans le parcours de Claude François, et notamment la rupture de son père qui est complètement brisé par cette aventure. Le film retrace tout le parcours de la vedette des yéyés et du disco, du jeune Français né en Égypte, percussionniste de cabaret monégasque à la fin des années 50, au chef d'entreprise des années 70. Bande-annonce retravaillée par notre réalisateur
Nicolas Berger.
Moi, c'est Claude. Claude François. Comme le chanteur.
Avec moi. C'est mieux que gagner au casino.
Pas trop près pour ne pas me gêner.
Tu noteras tout ce que tu auras à faire
pour pouvoir m'entendre.
Et tu le reliras 20 fois par jour.
Et tu barras au fur et à mesure
tout ce que tu auras à faire.
Arrête de dire d'accord, c'est agaçant.
Oui, c'est beaucoup de travail d'abord parce qu'en général, je ne choisis pas les meilleurs mais les plus jolis. Bien, merci les Claudettes.
C'est quoi ton problème? Tu te crois l'armée du salut? Regarde tes pompes.
T'as oublié le petit
loup? Pourquoi j'ai toujours les secrétaires les plus nuls du monde?
Allez, dehors!
Je ne veux pas d'un fils saltimbanque. Et demain, tu quittes la maison.
Il a fallu que je m'en sorte pour tout le monde. On était six. Et il fallait que je fasse tout pour les autres. Ça me poursuit. Et j'ai toujours peur de retomber vers ça. Puis c'est tellement facile d'y retomber, finalement. Même au stade où j'en suis.
Si les gens me voient glander dans la rue, s'ils voient que je suis comme tout le monde, il est où le rêve, là?
T'en as jamais marre? Tu contrôles tout, tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système...
More, much more than this, I did it my way. Yes, there was...
Florent Minossiri. Pour cette bande-annonce, Nicolas Berger a intégré des documents sur Claude François en écho à l'élaboration du projet du film, puisque à l'origine, il y a un documentaire que vous voyez sur sa vie. Qu'est-ce qui a pu déclencher, au vu de ce documentaire, le besoin de passer justement au cinéma, d'en faire un personnage de cinéma? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce documentaire qui puisse comme ça donner cette impulsion?
Déjà, je le connaissais mal et je crois qu'il se cachait beaucoup derrière cette image un peu efféminée, entourée de jolies femmes. Moi, quand il est décédé, j'étais enfant. Et c'est vrai que finalement, ma génération le connaît mal, à part ses chansons, bien sûr, puisque sans avoir écouté jamais un disque, on connaît, nous tous, toutes ces chansons. Mais non, j'ai découvert à travers ce documentaire un véritable personnage de cinéma avec un destin presque à l'américaine. Voilà. Puis un personnage riche, complexe, contradictoire. On peut l'aimer, on peut le détester, enfin du pain béni pour le cinéma. Voilà, avec cette trajectoire qui part de l'Égypte jusqu'à sa mort, avec des chansons incroyables. Moi, je ne savais pas qu'il transformait sa vie autant en chansons. On apprend par exemple que, comme d'habitude, c'est un chagrin d'amour avec France Gall. Voilà. Il y a plein... Moi, j'ai trouvé vraiment un mec au-delà. J'avais plein de clichés sur lui et j'ai découvert quelqu'un qui était complètement pas du tout cliché.
Alors, quelle image aviez-vous de l'artiste avant d'en savoir plus sur lui et que vous teniez à faire apparaître dans le film? Vous parliez de clichés d'ailleurs. Est-ce que vous avez joué sur ça?
Oui, moi ce qui m'a touché, c'est son histoire familiale. C'est vraiment, vous parliez de l'Égypte, c'est vrai qu'il y a cette vraie rupture avec son père, parce que son père, quand ils étaient en Égypte, il s'occupait du trafic sur le canal de Suez, et bon, il pensait que naturellement son fils allait travailler sur le canal de Suez, et que quand il est rentré en France, ils étaient vraiment dans la misère. Et Claude François a vu son père aussi baisser les bras, et je crois qu'à 17 ans, on a besoin de voir un père fort. Il a vu un père qui baissait les bras, et je crois que s'il n'avait pas eu ce père et cette mère, il ne serait pas devenu Claude François. C'est ce qui m'a vraiment touché à travers son histoire. Et puis encore une fois, ce que je disais, c'est qu'il transformait sa vie en chanson. Et puis qu'il était précurseur, moderne, novateur, sens du marketing. Enfin, il a tellement de couleurs, on peut... Vraiment, c'était...
Homme d'affaires aussi.
Homme d'affaires, homme à femme, photographe de charme, voilà, patron de presse...
Pierre Lescure, dans votre livre dont on va parler tout à l'heure, vous faites référence à Claude François justement par rapport à une émission de radio que vous aviez à l'époque dans la discothèque 2, c'était sur Europe 1, et Claude François vous avait fait découvrir sa grande connaissance du rhythm and blues. Pour vous, est-ce que c'était une surprise à ce moment-là?
C'était pas tout à fait une surprise, parce que quand on écoute ses grands titres après les 3-4 premiers, la rythmique prend une importance énorme. Mais ce qui m'avait particulièrement intéressé et même passionné et épaté dans l'émission qu'on avait fait ensemble là-dessus, c'est que sa connaissance du rhythm and blues était surtout sa connaissance des rythmiques. Donc il comparait à la fois les rythmes de base, les bases de batterie, mais aussi toute la manière de travailler les guitares basses, à la fois chez Otis Redding, chez les premiers grands maîtres du rhythm and blues, et la grande différence avec la machine Motown. Et il avait une connaissance technique très pointue que, Florent, vous avez regardé de près.
Oui, j'imagine, puisque vous avez aussi un passé de musicien, Florent Minossiri.
Disons que j'ai fait une trentaine de clips avant de devenir réalisateur de cinéma. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour faire ce film, parce que j'ai la relation entre l'image et la musique, je l'ai travaillé avant. J'ai fait beaucoup de clips de rap, notamment.
Et pas que ça.
Oui, parce que j'ai pu lire que vous aviez été tenté un temps par une carrière musicale plus punk rock que disco, je crois. Vous tourniez dans des cafés anarchistes à la frontière franco-allemande.
J'avais 16 ans là-bas. Alors, vous avez vraiment les bonnes infos. Il y a peu de gens qui savent ça. Ouais. C'est vrai que j'avais un groupe punk et on faisait des tournées.
Vous chantiez ?
Non, je jouais de la basse et j'écrivais les textes. Ouais. Et c'est vrai que ça finissait toujours en bagarre.
Alors, par rapport à cette histoire de découpage, justement, de pouvoir filmer après le clip, le film sur Claude François, il y a vraiment un choix de cinéaste. C'est-à-dire que vous faites de la décennie, je vous cite, la plus rythmée de sa vie, donc la décennie des années 70, vous en faites vraiment un univers de cinéma, puisque vous la travaillez, par exemple, en plan séquence. Je pense à une séquence. Il sort de son appartement, il entre dans sa voiture pour aller jusqu'à ses bureaux, poursuivi par ses fans. Et ça, c'est intéressant de faire un contrepoint du point de vue du cinéma par rapport à une période, j'allais dire électrifiée, mais le jeu de mots est toujours très mal habillé.
Ouais, c'est vrai. Non, mais je voulais faire un film du point de vue de Claude François. Je voulais être avec lui et traverser ses époques et son histoire à travers ses yeux. Et c'est vrai que des fois, j'ai envie d'être la petite souris derrière lui quand il se prépare et qu'il sort de chez lui, qu'il va à l'encontre de ses fans, qu'il prend sa voiture et tout, et qu'il arrive jusqu'à ses bureaux. Moi, j'essaie de le filmer un peu comme un thriller aussi. À chaque fois, on apprend des choses sur Claude François. On est pris par ce personnage. Et c'est vrai que j'essaie aussi de ramener de la modernité, entre guillemets, dans ce parcours, parce que Claude François était très moderne. J'essayais aussi de faire un film très rythmé, parce que pour moi, Claude François est rythme dans sa vie, dans ce qu'il est, cette peur toujours de retomber, cette envie toujours d'y arriver aussi, parce qu'il faut voir comment il s'est acharné pour y arriver.
Ça faisait longtemps que vous rêviez de faire un film musical. Quels étaient vos modèles, vos références? Est-ce que Alan Parker, par exemple, a pu être un exemple?
Oui, complètement. Il y en a beaucoup que j'aime. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi New York de Scorsese. C'est vrai que vous parlez de The Wall.
The Wall, il y a eu Fame, The Commitments, Fame. Evita, des films très différents chaque fois.
Moi, je retiens surtout The Wall parce que j'aime beaucoup ce film. Dans les derniers films que j'ai adorés, c'est par exemple Ray ou Walk the Line, que je trouvais formidable. C'est vrai que c'est... j'ai toujours eu envie de raconter. Moi, j'adore la musique. C'est vrai que quand je faisais des clips de rap, des fois avec les, parce que j'ai fait beaucoup de clips pour IAM, on parlait de d'une comédie musicale. Parce que j'adore West Side Story, enfin comme tout le monde. Et puis, on n'a jamais réussi vraiment à trouver une histoire, disons. Et voilà. Et avec Claude François, j'ai vraiment pu le faire.
Pierre, est-ce que vous avez vu le film ou pas encore?
Je l'ai pas encore vu, mais on me dit. Et à travers les questions de Laurent, en tout cas, un critique de cinéma me dit que c'est autant un film musical, d'ailleurs, pour rebondir sur vos questions, qu'un biopic.
Oui, bon, enfin, le biopic, c'est une expression très américaine qui est un peu dans l'air du temps, mais c'est plus un film sur le destin, un film musical. Ouais. On dirait, il y a quelques années, on aurait dit un film sur le destin, un film musical, mais pas un biopic.
Alors, il y a aussi une dimension très intéressante dans la façon que vous avez d'envisager la télévision, puisque Claude est aussi une créature de télévision.
Complètement, oui.
Il a été soutenu par les émissions de variété, Marie-Thévé Gilbert Carpentier, Guy Lux, Michel Drucker. C'est une dimension dont on parle souvent dans le film, mais que vous montrez peu à l'écran. Pour quelle raison?
Disons que je voulais montrer aussi... un personnage qui, au bout d'un moment, a trop vouloir contrôler son image, à fabriquer son image. Il y a un moment, il se perd un peu, on le voit, il n'arrive pas à devenir un père pour ses enfants. Réellement, il est toujours pris par cette peur de retomber, de ne plus plaire, de cette jeunesse éternelle. Et c'est vrai qu'au début, je l'ai montré beaucoup par ses concerts. Notamment, il y a un concert où il découvre les Claudettes quand il voit Otis Redding. Et je trouvais que c'était formidable de montrer son énergie à travers les concerts. Et il est encore... pur, entre guillemets, pour moi. Et à partir des années 70, il est tellement obsédé par son image que du coup, j'essaie de travailler plus par rapport à son rapport à la télé ou au clip. C'est vrai, parce que ça donne une image beaucoup plus lisse, le show télé, que le concert où c'est... Alors, dans les années 70, je monte le concert, mais je monte que les moments où il est en transe, où le personnage se perd, où il faisait... C'est vrai qu'à la fin de ses concerts, pendant une demi-heure, il tournait en rond, comme un Africain, je veux dire, il se mettait littéralement en transe. Et je trouvais que ça exprimait, que ça parlait au mieux du personnage. On était au plus proche de son histoire à ce moment-là.
Et cette esthétique de télévision, même si vous la reprenez vous-même dans votre réalisation, je pense notamment à une scène de rêve où Claude François est dans sa loge, on lui apporte le vinyle de My Way, un 45 tours, chanté par Sinatra. Et alors là, le mur s'ouvre presque comme un décor de chez Mariti et Gilbert Carpentier sur le jardin de la maison de Sinatra, à moins que ce soit la maison de son enfance. Une scène fantasmée pour laquelle là, vous citez finalement plutôt La mort en ce jardin de Louise Buñuel.
Oui, complètement, oui. Parce que j'adore ce film et c'est vrai que pour ceux qui connaissent ce film de Buñuel, pendant une heure, on est plongé dans la jungle avec des personnages, on est vraiment au milieu. Puis tout d'un coup, on a une image de Paris, des voitures qui circulent et tout d'un coup, cette image s'arrête et on se rend compte qu'un des personnages est juste en train de regarder une carte postale. J'aime beaucoup ce rapport à la réalité, à l'imaginaire. Et dans Clo-Clo, je me suis projeté, je me suis dit quand Claude François a dû recevoir ce disque, ce souple, puisque c'était un souple qu'on lui envoyait, et qu'il a écouté pour la première fois dans sa loge, j'ai fait ce voyage imaginaire avec lui, et je me suis imaginé, il revenait dans la maison de son enfance, il croisait son père, il mettait le disque sur la platine, il disait « Papa, regarde, The Voice, c'est Frank Sinatra ». Parce que j'ai l'impression que Claude François, il a toujours été un enfant quelque part qui avait besoin de cette reconnaissance que son père ne lui a pas donnée. Donc c'est... voilà.
Il y a aussi quelque chose qui fait le lien, bien sûr, c'est son italianité. Par exemple, il y a cette truffée de référence, la mère de Claude François, c'est la comédienne Monica Scatini, qui a joué sous la direction de Dottore Scola, notamment dans Le Bal. Mais je voudrais revenir plus précisément sur le chef opérateur avec qui vous travaillez, c'est un Italien, Giovanni Fiore Castellacci.
Coltellacci. Il est compliqué, Coltellacci.
Qui fut cadreur pour Fellini.
Cadreur de Fellini, oui.
Pour Visconti.
Oui.
Qu'est-ce que vous attendiez de lui et de son regard pour qu'il vous suive comme ça à travers tout ce cinéma?
J'ai fait mon premier film avec lui, Une minute de silence, avec Benoît Magimel et Bruno Puzzulu sur une grève de mineurs dans l'Est de la France. Moi-même, je suis d'origine italienne. Et c'est vrai que c'est un chef opérateur que j'ai rencontré par hasard. Et on a parlé de cinéma et c'est quelqu'un d'incroyable qui a connu tous ses maîtres. Et moi, il m'a beaucoup aidé dans mon parcours parce qu'il avait cet œil sur moi, toujours bienveillant. Et voilà. Et puis c'est vrai, c'est ma famille aussi de cinéma, comme Benoît Magimel ou Alexandre Desplat pour la musique.
Et à propos de cinéma italien, vous êtes originaire de Lorraine et je me demandais ce que représentait pour vous le festival de Villerue, un festival historique du film italien créé en 1976. Est-ce que vous y alliez? Est-ce que c'était vraiment un endroit important? Est-ce que votre cinéphilie s'est construite là?
Non, ma cinéphilie s'est construite dans une petite salle de cinéma de Frémin-Merlebach qui s'appelait Le Club, où j'allais voir des Walt Disney. Et puis un jour, il y avait une rétrospective Hitchcock et ça m'avait... foudroyé. J'ai eu envie de devenir cinéaste, je crois, quand j'ai vu cette rétrospective. Mais c'est vrai que Villerue... Moi, je suis très attaché au monde ouvrier parce que j'ai grandi là-dedans. Mon père était mineur de charbon, ma mère était femme de ménage. Et c'est vrai que Villerue, je connaissais plein d'Italiens et de Polonais. On faisait plein d'échanges. C'est vrai que chaque année, ils m'invitent. Je ne peux jamais y aller, mais je vais y aller parce que c'est... Par contre, j'étais chez eux manger leurs pâtes. C'est très, très bien.
Le rendez-vous extérieur.
On vous retrouve tous les deux dans quelques instants, mais tout de suite, c'est l'extérieur, la séquence questionnaire autoportrait imaginée par Manu Farine qui ouvre la semaine avec un invité rencontré le week-end. Aujourd'hui, ce sera Yves-Noël Genot, metteur en scène, acteur, auteur, performeur, quelques jours avant la création de Chic by Accident à la Ménagerie de Verre à Paris, dans le cadre du festival Étrange Cargo. Questionnaire théâtre Yves-Noël Genot, Manu Farine.
L'auteur de votre adolescence.
C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Setan. Son premier livre qui m'a vraiment marqué adolescent et que c'était le livre que j'offrais à tout le monde, vraiment beaucoup, 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 et qui me fascine toujours autant, qui s'appelle Rock la ville, qui était chez Minuit, et Marguerite Duras a fait une préface là-dessus. Je me demande encore toujours, quand je l'ouvre de nouveau, comment il a pu l'écrire. Ça raconte une nouvelle manière d'être ensemble, des jeunes gens qui sont à la fois... perdu à la société, mais complètement ouvert à la vie, libre, pur, sans désespoir, sans pathos, sans misère. Très, très beau, ouais, très, très beau.
Première mise en scène?
La première mise en scène, c'était un one-man show. C'est aussi venu parce que j'avais une psychiatre qui m'avait conseillé de faire... Je sais pas, je parlais beaucoup des homosexuels en séance. Elle me disait, je devais dire des choses absurdes et finalement drôles. Et elle me disait, tu devrais écrire des sketchs là-dessus, sur les homosexuels. Je parlais des homosexuels en général, et puis finalement, j'arrivais à dire que ce n'était pas les homosexuels en général que je n'aimais pas. Finalement, c'était certains homosexuels, et puis au final, c'était Olivier Pie, en fait. Voilà.
Le spectacle que vous êtes retourné voir.
Un jour, il y a un spectacle de Claude Régis qui est arrivé à Villeurbanne, une création, grand et petit, avec Bulochier, etc. Et je me souviens que le soir de la première, 2/3 de la salle sont partis. Ça durait 4h30, quelque chose comme ça. Et je me souviens aussi que je n'ai même pas applaudi. Je ne savais pas du tout ce que j'avais vu, quoi, le premier soir. Et donc, je suis revenu beaucoup. Et puis, évidemment, ça a fait ce qui peut arriver à quelqu'un de jeune, c'est-à-dire que plus rien n'avait d'importance que ça. C'est-à-dire que tout le reste du théâtre était, pendant un moment en tout cas, nul. Tout ce que j'avais aimé avant, c'était nul. Il n'y avait plus que Claude Régis. Mais ça l'a fait aussi pour Pina Bausch.
Le spectacle que vous auriez aimé voir?
Des spectacles de Klaus-Michael Gruber. Pour moi, c'est l'équivalent de Rimbaud dans le spectacle vivant. C'est quelque chose d'inouï. Pour moi, c'est la beauté absolue. Oui. C'est un miracle. Ouais.
L'auteur que vous aimiez et que vous n'aimez plus?
Colette, par exemple, Aragon, mais Colette, c'est très très bien, cela dit. Mais c'est surtout les lettres que je trouve très belles. Et j'aime moins les choses plus travaillées. Et puis après, il y a eu justement Marguerite Duras qui détestait Colette, C'est-à-dire qu'elle s'est bâtie un peu contre ce genre d'écriture. Mais une fois, je lui avais dit une chose à Duras qui lui avait plu. C'est Colette qui écrit justement à Proust. Et elle lui dit, j'espère que vous sortirez un livre... de la recherche, un livre pour mes vacances, parce que ça et la mer, quel bain. Ça plaisait, ça n'avait plus à Duras. Ouais.
L'auteur que vous avez fini par aimer?
Le dernier que j'ai découvert, là, c'est Chateaubriand. C'est incroyablement vivant, les mémoires d'outre-tombe, oui.
L'actrice que vous auriez aimé être?
L'actrice que j'aurais aimé être, Delphine Seyrig, bien entendu.
Yves-Noël Genot, merci.
L'actrice que vous auriez aimé être, Pierre Lescure?
Audrey Hepburn.
Bien sûr. Je vous pose la question.
Meryl Streep.
En plus, un Oscar.
Le rendez-vous
c'est sur France Culture.
Plateau télé, mais pas que avec vous, Pierre Lescure, directeur du Théâtre Marigny, mais avant cela, journaliste à la radio, RTL, Europe 1, en passant par RMC, jamais Radio France d'ailleurs.
Non, quelques émissions d'été, des émissions de musique, mais pas de manière régulière.
Vous avez été journaliste sur des radios privées donc, mais aussi directeur des programmes sur Antenne 2, puis sur Canal+, dont vous avez été le PDG emblématique, et puis depuis 4 ans, donc directeur du Théâtre Marigny. C'est de tout cela qu'il est question dans votre autobiographie, Hymne de Baba, chez Grasset. Quel titre, un titre étrange qui laisserait presque penser que tout au long de votre carrière, vous vous seriez fait avoir. Ou est-ce que cela renvoie plus précisément au premier temps de votre livre, c'est-à-dire 2002, l'année de votre éviction de Canal+.
Oui, ça évoque ça parce que je l'expédie au début. Donc là, ce
ils y reviennent à la fin, hein, les autres.
Oui, il y a quelques testimoniaux. Ouais. On dit ça au pluriel ?
On va le dire.
Oui, on va le dire. En tout cas, cette année-là, je l'ai eu in the Baba, mais finalement, dans le bouquin, tous ceux qui n'ont pas cru à certains projets, y compris à Canal+, l'ont eu in the Baba. À leur tour, à la fin, c'est une espèce de match nul, quoi. Puis ça me faisait marrer de reprendre une expression que j'aimais bien à la fin des années 50, au début 60, quand on disait « in the baba », quand on disait « c'était bat ».
Retour donc sur le passé, comme vous venez de le faire. À partir de votre autobiographie, Nicolas Berger, notre réalisateur, a composé une sorte de bande-son de zapping radio, à partir de ce livre donc, le montage.
Président, petit rien qui m'a donné.
D et W veulent des R sur FX.
Veulent des renseignements sur Furax.
Ça c'est clair.
Ah oui, continue.
Eh bien justement, en écoutant H-Tendre, en suivant l'émission, nous trouvons qu'elle fait la part un peu trop belle aux danses et à la chanson.
C'est une association de collectionneurs qui compte environ 4000 collectionneurs de radio, rien qu'en France.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons maintenant un rendez-vous avec Jacques Chancel, qui se trouve dans un autre studio de l'ORTF.
Bonjour, nous sommes cette fois en direct de Latch, la propriété familiale du président de la République. You can run, but
you can't hide. Donc, t'étais avec Pierre Lescure.
Oui, ça a été une grande histoire d'amour.
Mmh. Quand on a été à l'enterrement de Bruno, le soir, on est devant la porte qui m'attendait à minuit. C'était Pierre Lescure, Alain de Greffe, ça j'oublierai jamais. Alors ma vraie famille, elle était vraiment là, oui.
Monsieur le Président, je l'ai compris, je le corrige.
Et puis cette grande salle que vous découvrez avec moi, 1000
places. Comme c'est émouvant, 1 minute 30 pour faire tout le passé de Pierre Lescure avec Les Petits Riens par Catherine Deneuve. On entendait Catherine Pancol-Cherdisson, Chantal Lobry. On vous entend présenter Midi Pile sur Antenne 2. Ciné Furax, c'est l'émission que vous écoutiez enfant. Tout le monde est remercié, véritablement, même à la fin du livre, Benoît Lagan.
Et il y a dans ce montage, donc, assez logiquement, Canal+. Et votre modèle, vous l'expliquez bien dans le livre, c'était HBO, la chaîne câblée et à péage américaine. Vous allez d'ailleurs en reprendre même la formule, le slogan. Quand on regarde Canal+, on ne regarde pas la télévision. It's not TV, it's HBO. Comment avez-vous adapté cette forme de télévision américaine à la culture et surtout aux traditions télévisuelles françaises ?
Je ne veux pas faire preuve de fausse modestie, mais c'est souvent à contrario des obligations qu'on avait. Au départ, les socialistes décident de faire une chaîne à péage française dédiée au cinéma. Et puis on négocie avec les gens de cinéma. Moi, je suis arrivé un an avant les débuts. Et forcément, les gens du cinéma disent pas le mercredi, c'est quand les films sortent. Pas le week-end, c'est là que les gens... On est en 83,
84. C'est le vent au cinéma.
Et donc, on se retrouve avec 50% de cinéma dans notre grille. Il faut trouver autre chose. D'où l'idée qui est venue chez nous de dire « Mais si on passait du football, ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu un match de championnat. » Etc, etc. Et puis l'aile gauche du Parti Socialiste a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout le monde paye la redevance et il y a des gens qui payent la redevance et qui n'auront pas les émissions diffusées par des relais qui appartiennent à l'État, donc à chaque citoyen. » D'où l'obligation qui nous a été faite de faire du clair. Etc, etc. Et puis on s'est inspiré des HBO essentiellement pour la multidiffusion qui est vraiment un service d'intérêt général.
Alors, il est fait référence aussi dans le montage de Nicolas Berger à la figure de François Mitterrand. À plusieurs reprises d'ailleurs dans le livre, vous revenez sur cette figure. Canal+ fut longtemps dirigé par un de ses proches, hein, André Rousselet. Quels ont été vos rapports avec lui ?
Avec François Mitterrand, bah, il y a eu l'épisode de la grue de Latché, mais mes rapports avec lui, ça a surtout été l'occasion de rencontres à l'Élysée et un peu avant, mais surtout après son élection, où quand il réunissait des gens de télévision, des gens de cinéma, des gens de théâtre, c'était toujours passionnant. Il ne s'agissait pas de nous convaincre, il s'agissait de discuter entre nous et avec lui. Et ça, c'est, je trouve, un bon modèle à suivre.
Alors on parlait de l'exemple HBO, vous disiez pour la multidivision, et parce que votre modèle de contenu de télévision américaine, finalement, ça va presque plutôt être NBC. Il y a eu le Saturday Night Live ou encore la série Hill Street Blues, que vous allez d'ailleurs diffuser sur Canal+. Mais vous n'avez pas pour autant adapté son concept à la télévision française. Ça, il faudra attendre M6 et Police District créés par Hugues Pagan. Pour quelle raison Canal+, à ce moment-là, ne s'est pas lancé tout de suite dans la fiction et dans ces modèles-là dont vous parlez dans le livre ?
Je ne veux pas raconter ma première guerre à moi, que je n'ai pas faite, ma première guerre mondiale. Mais si vous voulez, à l'époque, quand on lance Canal, il y a 9000 films français et étrangers en catalogue qui n'ont jamais été diffusés par la télévision. Donc on peut à la fois passer des films récents, sortis en France un an ou un an et demi avant, et puis il y a tout un catalogue qui va du ciné-club aux films d'il y a 10, 20, 30 ans. Donc ça nous mène pendant 6, 7 ans, on n'a pas besoin de penser à la fiction. Et je trouve que nos successeurs, à De Greff et à moi, ont très bien travaillé et commencent de travailler de mieux en mieux sur la fiction. Nous, c'était pas... On a préféré amener quelques séries américaines à épisodes bouclés, parce qu'avec la multidivision, diffusion, il ne s'agissait pas d'avoir besoin d'un feuilleton.
Florent Mériot-Séry ?
Oui, bah moi je vais faire... j'arrive pas à faire un film au cinéma depuis une dizaine d'années et je vais en faire 6 fois 52 minutes pour Canal sur l'histoire de la bande à Bono, des anarchistes au début du siècle. Voilà. Mais moi, Canal+, j'ai en tout toujours été fidèle. C'est eux qui ont aidé au lancement de mon premier film. Ils ont toujours été là. Moi, je suis génération Canal+. Ils ont été partenaires sur tous mes films. Et encore une fois, je veux faire un film de cinéma qui ne peut pas se faire, mais je vais faire une série télé pour Canal.
Il y a un truc qui me frappait tout à l'heure, je n'ai pas encore vu Clo-Clo, je vais y aller cette semaine évidemment. Mais il y a un truc qui me frappait à travers vos questions, Laurent et toute l'équipe, c'est qu'avec Florent, quand on parle, même quand il prend des sujets aussi absolus que Clo-Clo, qui est un sujet absolu, ou la guerre d'Algérie, on lui pose des questions de cinéaste. Et je me souviens au moment à la sortie d'Ennemis Intimes, toutes les questions n'étaient pas tellement sur la guerre d'Algérie, et votre point de vue à vous et Benoît, Magimel, mais c'était sur la façon dont vous aviez filmé, ce que vous faisiez tous deux tout à l'heure avec Florent sur Clo-Clo.
C'est gentil, j'essaie d'aller au-delà du sujet aussi, de faire des films de cinéma.
Ben oui.
Et de véritablement faire des choix à chaque fois qui se remarquent quand on les regarde à l'écran. Benoît. Alors une question média et de télévision pour vous, Pierre Lescure. Alain Chabat, et vous le rappelez dans le livre, rêve de fabriquer le Saturday Night Live, l'émission américaine d'humour culte de NBC sur Canal+. Ce projet est proposé à plusieurs reprises. Il finit par voir le jour finalement, c'est Les Nuls, l'émission pendant 2 saisons, le samedi soir vers 22h. Mais 2 ans à peine, comment vous expliquez que l'on n'ait pas pu faire durer ce type de concept-là en France ?
Je pense que ces concepts-là, c'est comme les émissions littéraires. Il faut un type ou une femme capable de les animer, et puis ensuite on met des gens de littérature autour. Mais tout dépend du type. Quand c'est pivot, ça marche. Mais on connaît un certain nombre de rombiers avec qui ça ne marche pas du tout. Et on s'enquiquine, on préfère aller bouquiner. Et là, pour un talk show comme le Saturday Night Live, je pense qu'on avait trouvé l'équipe quasi reine, avec les nuls qui étaient pétris de culture à cet égard, et qui ont réussi un truc à la française, tout en s'inspirant d'eux. Mais on n'a pas trouvé les successeurs.
Non. Alors avant Canal+, il y a un nom important qui revient à plusieurs reprises dans le livre, c'est celui de Pierre Descropes, un des patrons les plus créatifs de la télévision française. Et d'ailleurs, c'est toute une génération qui est révélée par Descropes, qui participera à la création de Canal+, notamment Alain De Greff. Finalement, est-ce qu'on pourrait voir l'ère Descropes comme une sorte de laboratoire pour Canal+?
Ah ben en tout cas, oui, il a permis ce laboratoire.
Cinéma.
Absolument. Quand Descropes arrive, c'est un journaliste de formation. Il revient après avoir complètement rénové l'information en 69. Et puis il est viré en même temps que Chaban-Delmas. Il revient en 81, il est patron de la 2. Ce sera le seul moment où la 2 passera devant la 1. Et il a presque 65 ans. Il nomme 13 hommes et femmes à la tête de 13 unités qui vont du document, du cinéma, du théâtre, des programmes pour jeunes, c'était mon truc à l'époque, etc., etc. Il a effectivement créé des laboratoires. Et moi, aux Enfants du Rock, par exemple, j'ai rencontré un tiers des gens qui ensuite feront Canal.
Et qu'avez-vous compris en travaillant à ses côtés? Et puis surtout, comment vous expliquez qu'il n'ait pas pu faire plus école au sein du service public? Parce qu'il y a comme une rupture après lui.
Bah, la rupture, elle a été voulue par les politiques qui l'avaient nommée, qui ont créé cette loi imbécile, et je parle pas pour moi, qui fait qu'après 65 ans, on peut plus être nommé dans un service public. Et il faut partir quand on a cet âge-là. Je pense qu'il faut une formation et une rigueur qui permettent à la fois d'avoir la rigueur du journaliste, mais aussi la curiosité de cet homme. Mais il faut des gens de contenu. Et lorsque la rupture, elle vient de là. C'est qu'ensuite, il y aura très peu d'hommes de contenu. Et puis, il y avait chez des groupes une... pour moi, c'est la matrice de l'indépendance sans provocation, donc la rigueur.
Autre chose, c'est avant la télévision, c'est la radio chez vous. Je me demandais en quoi l'expérience de l'infotainment, hein, qui avait été initiée sur RTL avec Philippe Gidat, c'est-à-dire à peu près 51% d'info, 49% de forme, qui a été ensuite reprise sur RMC, ça a pu vous servir de base à chacune de vos réflexions, à la fois en termes de programmation, à la radio, puis à la télévision.
Si vous voulez, l'idée, c'est de se dire que quand on fait, quand on s'adresse à des centaines de milliers de gens ou des millions de gens, pour eux, l'information est un tout, comme dans un journal écrit. Dans un journal écrit, moi, quand j'étais gamin, c'était un journal d'opinion, c'était l'Humanité, puisque mon père y travaillait et que ça tirait à 600 000 exemplaires. Mais il y avait à la fois les nouvelles du jour, les nouvelles internationales, les nouvelles économiques, les nouvelles culturelles. Il y avait de la bande dessinée, du sport et il y avait de la culture et du fait divers. Donc, il faut de tout. L'information est un tout. Et un nouveau disque, un nouveau film, c'est une information. Et c'est pas vous qui faites les montages sonores que vous nous proposez qui pouvez nier que la forme est au moins importante à 49% dès lors qu'on a quelque chose à dire.
Et donc, il y a une figure importante avec qui vous allez travailler pendant toutes ces années. C'est Jean-Michel Desjeunes, une grande figure du journalisme
radiophonique. Que j'ai entendu dans votre montage, d'ailleurs.
Voilà. Et malheureusement, un peu oublié aujourd'hui. Vous avez travaillé avec lui sur RTL, RMC, Europe 1. Vous avez fait le CFJ également avec lui. À Europe 1 avec lui jusqu'à son suicide en 1979. Qu'a-t-il apporté au journalisme radiophonique? Et qu'avez-vous appris aussi en travaillant avec lui?
D'abord, c'est lui qui m'a fait découvrir la radio. J'étais parti pour faire de la presse écrite, donc il a changé ma vie. Mais il avait, alors lui, cet équilibre dont je parlais, la modernité de langage sans une once de vulgarité, jamais. Et cette modernité, il ne la mettait au service du journal que dès lors qu'il y avait une information. Jamais de remplissage, jamais de facilité. Et pourtant, Dieu sait s'il était élégant, il aurait pu se présenter en faisant juste le monsieur loyal. Mais il avait cette rigueur journalistique et la forme quasi naturelle en radiophonie et en télégénie. Puis merci dans votre montage tout à l'heure d'avoir remis Randy Newman. Bad News from Home, je crois, qui est vraiment un des titres les plus tragiques. Vous devriez faire un film un jour, Florent, sur Bad News from Home.
Vous concluez le livre, ce sera la dernière question, avec 4 pages de remerciements en vrac. Alexandre Dumas, Audrey Hepburn, vous l'avez cité tout à l'heure, Guy Lux, Léon Tolstoï, Jean-François Bizot, bien sûr. Et parmi ces personnes, on trouve actualité, je ne sais pas si elle oblige, François Hollande. Je me demandais qu'est-ce que vous lui deviez pour qu'il apparaisse ainsi dans cette liste. Enfin, il y en a d'autres, hein. Il y a François Mitterrand, mais pourquoi François Hollande? Il y a Lionel Jospin.
D'abord parce que, Lionel Jospin, parce que je trouve qu'il a été un homme d'État dans la veine d'un Mendès France, mais ça a été plus court et il a eu moins d'événements historiques. Et François Hollande, c'est quelqu'un que je connais depuis 15 ans. Sur le plan humain, j'apprécie énormément cet homme en tant qu'ami et je trouve passionnant, il sera élu ou il sera pas élu, moi je voterai pour lui, mais c'est pas le sujet. C'est que je trouve passionnant la transformation jour après jour depuis 4 ans d'un homme qui commence à marcher vers son destin, quel qu'il soit demain.
Juste une question, mais ça n'a rien à voir, quoique, puisque l'idée de transformation, je me demandais, Florent Emilio Siri, je comprends bien qu'en fait, qu'il y ait une certaine fidélité à une équipe de cinéma dans votre parcours. Le fait de tourner systématiquement avec Benoît Magimel, est-ce que vous voulez en faire une sorte d'alter ego comme ça, une sorte de presque de journal de bord que vous tiendriez avec cet acteur?
C'est vrai, il y a quelque chose comme ça, oui, c'est vrai. Moi, j'ai connu Benoît, il avait 18 ans. Je voulais faire un court métrage et puis il venait d'avoir c'est notre, mais c'est vrai, mais moi j'ai besoin de travailler en famille, je suis comme ça. Benoît, c'est le parrain de mon fils Angelo, c'est la famille depuis longtemps. Quand j'ai fait mon premier film, il devait faire Taxi 1 et il s'est rendu compte que les deux emplois du temps se chevauchaient et il a fait le choix du cœur. Il aurait pu faire Taxi 1, il aurait eu beaucoup plus de succès, un lancement beaucoup plus fort. Mais Benoît, il choisit ses films, il choisit ses histoires. C'est vraiment pour ceux qui le connaissent, vous le connaissez bien, c'est quelqu'un de cœur.
Voilà. Et dans l'histoire du cinéma, il y a des duos comme ça qui vous ont marqué, réalisateur, acteur.
Imaginez, moi d'origine italienne, s'il n'y a pas un duo qui m'a marqué.
Okay. On n'a même pas les citer alors.
Non, tout le monde sait de qui on parle, je pense.
Le rendez-vous, la session.
La session, Mathieu Conquet, pianiste.
Piano et guitare aujourd'hui avec la chanteuse suisse Anna Aron. Elle a 26 ans, elle s'était fait remarquer pour un premier court album avec une tonalité assez poignante, le titre I'll Dry Your Tears, Little Murderer. Et puis on a pu l'entendre à côté de Eric Truffat, par exemple, le grand trompettiste suisse lui aussi. Alors on retrouve dans son premier album Dogs in Spirit une écriture avec beaucoup d'obsessions et des ballades assez violentes, bien qu'elles aient une apparence assez calme. Je parle d'écriture puisqu'elle a été étudiante en philosophie et en littérature allemande, ce qui n'empêchait pas de lire Crime et Châtiment, là, juste avant de passer au piano. On retrouve dans ses chansons des monstres marins, des chiens fantastiques, mais c'est pas de côté Cerbère au bord du Styx, ça vous allez voir. Elle est accompagnée, Anna Aron, au piano, d'Emily Zoé à la guitare, Where Are You, David. Je lui ai demandé s'il y avait un lien avec Goliath, elle m'a dit, je ne sais pas. On va voir. En direct, Anna Aron, c'est à vous.
Where are you, David? Every man in the city tells me he's made it. Is there a brave man anywhere, baby? As the voices getting louder, who can even touch his shadow? As the voices getting louder, who can even touch his shadow? Where are you? Is it in the news? Do I have to be good? Do I have to be somebody new? Where are you? Is it in the news? Do I have to be good? Do I have to be somebody new? Where are you, David? Every man in the city tells me he's made it. Is there a brave man anywhere, baby? On the floor, down like no other, bloody not too much to suffer. On the floor, down like no other, bloody not too much to suffer. Where are you? Is it in the news? Do I have to be good? Do I have to be somebody new? Where are you? Is it in the news? Do I have to be good? Do I have to be somebody new? Where are you, David? Tells me he's made it. There's no one who's righteous anywhere, baby. Where are you, David? Every man in the city tells me he's made it.
Anna Aron en direct sur France Culture. Anna Aron sera demain et mercredi en concert au Centre Culturel Suisse. C'est à Paris, le 21 mars à l'Aéronef à Lille et le 29 au Chorus des Hauts-de-Seine. Anna Aron, Dog in Spirit. L'album est paru sous le label Two Gentlemen.
Laurent et toute l'équipe posent des questions de cinéastes.
Vous avez vraiment les bonnes infos. Hein. Il y a peu de gens qui savent ça, ouais.
Merci à nos invités. Pierre Lescure, In de Baba est paru aux éditions Grasset. Ça, c'est BAT, comme on disait dans les années 50. Florent Emilio Siri, le film Clo-Clo sortira en salle mercredi prochain. Et Yves-Noël Genoux, le spectacle Chic by Accident, ce sera à la Ménagerie de Verre du 13 au 17 mars dans le cadre du festival Étrange Cargo. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain.
Bonjour, ça va? Allez, ciao.
C'est la voix d'Ariane Ascaride qui sera notre invitée. Elle parlera un peu plus que ça avec à ses côtés le metteur en scène Alain Françon.
Goumar, une émission préparée par Xavier Martinet, Benoît Lagan, Mathieu Conquet, Camille Dupuis, Pascal Dacibat et Aïssa Toundoy. À la technique, Éric Gérard et Damien Grelier. À la réalisation, Nicolas Berger.
Il est 19h53, vous écoutez France Culture. C'est bien.